Radio Prague, les informations. Bonjour, la République tchèque ne se joindra pas au pacte budgétaire lors du prochain sommet européen. Des milliers d'étudiants ont manifesté à Prague dans le cadre de la semaine de l'inquiétude dans les universités. Puis enfin football, les Tchèques sont en déplacement en Irlande ce mercredi pour leur premier match de préparation en vue de l'Euro 2012. Les trois partis de la coalition gouvernementale se sont entendus ce mercredi pour ne pas se joindre au pacte budgétaire européen lors du prochain sommet qui se tiendra à Bruxelles début mars, sommet au cours duquel le texte doit être formellement adopté. Ce pacte budgétaire sur lequel se sont accordés 25 des 27 États membres de l'Union européenne en janvier dernier, à l'exception donc de la République tchèque et de la Grande-Bretagne, est un traité qui doit aider la zone euro à sortir de la crise de la dette. L'information a été communiqué par le Premier ministre Petr Nečas à l'issue du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement a expliqué que cette décision avait été prise car les différents partis de la coalition ne sont pas parvenus à trouver d'accord sur la position à adopter. Petr Nečas a également rappelé que la République tchèque, qui argumente pour l'heure son refus par des raisons constitutionnelles, avait toutefois toujours la possibilité de se rallier plus tard à ce traité. Traité qui, rappelons-le, introduit l'idée d'une plus grande rigueur budgétaire commune. Une grande manifestation rassemblant, selon les estimations de la police, plus de 7000 étudiants des plus grandes universités du pays s'est déroulée mercredi matin à Prague. Le défilé a emmené les protestataires jusque devant le siège du gouvernement. Selon les organisateurs, les étudiants étaient 10 000 à protester dans le cadre de la semaine de l'inquiétude contre la réforme de l'enseignement supérieur proposée par le ministre de l'Éducation, Joseph Dobesch. D'autres manifestations se sont déroulées ce mercredi à České Budějovice, Ostrava et Plzeň. Mardi, environ 6000 étudiants et académiciens avaient déjà participé à une marche de protestation à Brno, en Moravie du Sud. Rappelons que la semaine de l'inquiétude est organisée dans 12 villes universitaires du pays. Les protestataires reprochent au ministère de l'Éducation de soumettre des réformes dangereuses pour l'autonomie des universités et de contribuer à l'endettement massif des étudiants. Et puis le Premier ministre Petr Nečas a réagi à ces importantes protestations étudiantes de ce mercredi en annonçant que le gouvernement allait continuer à discuter des réformes avec les recteurs et les représentants des étudiants. Le chef du gouvernement a qualifié de normal le fait que les étudiants manifestent leur mécontentement. Il a également précisé qu'il souhaitait parvenir à un accord permettant d'aboutir à, je cite, « des changements positifs dans le système de l'enseignement supérieur ». Lundi déjà, le ministre de l'Éducation avait annoncé vouloir renoncer au projet d'introduction de frais de scolarité. Ces derniers pourraient être remplacés par des frais pour des études prolongées ainsi que pour des études simultanées. Le gouvernement a adopté, toujours ce mercredi, le nouveau projet de loi relatif aux œuvres audiovisuelles et au soutien à la production cinématographique. Ce texte doit notamment permettre de modifier les règles de financement des films tchèques. Le Fonds national pour le soutien et le développement du cinéma tchèque devrait ainsi, par exemple, recevoir un certain pourcentage de chaque billet de cinéma vendu et non plus une seule couronne, comme cela est le cas jusqu'à présent. Par ailleurs, toujours selon la nouvelle loi, le fonds devrait également percevoir une aide des chaînes de télévision privée ainsi que les revenus de la taxation des films dont il a la gestion. On passe au sport et au football. Pour son premier match de l'année 2012, l'équipe de République tchèque affronte l'Irlande ce mercredi soir à Dublin. Il s'agit également du premier match de préparation en vue du championnat d'Europe qui se tiendra en Pologne et en Ukraine en juin prochain. L'Irlande est également qualifiée pour la phase finale. Et pour ce déplacement à Dublin, les Tchèques sont privés de leur capitaine et meneur de jeu Tomáš Rosický, blessé. On termine avec un mot de météo. C'est un temps essentiellement couvert qui continue de régner sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Bedřich. Quelques faibles averses sont attendues dans le nord et le nord-est du pays. En revanche, de franches éclaircies sont prévues dans la moitié ouest dans le courant de l'après-midi. Les températures sont stables et varient entre 10 et 14 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme, une suite qui vous est présentée par Anna Kubishta. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Guillaume pour son bulletin d'information. Tout de suite, les titres du jour. Les cendres de František Kupka pourraient retourner dans sa patrie. František Kupka, l'un des plus grands représentants de l'art abstrait au XXe siècle, inhumé à Paris, en France, où il passa l'essentiel de sa vie. Une initiative tchèque de sa ville d'origine cherche depuis plusieurs années à les faire revenir. Le ministère de la Culture tchèque vient de donner son aval. Et puis on parlera des 20 ans de la grande tour panoramique de Žižkov et et vision futuriste sur la ligne d'horizon de la Prague historique. Et puis on passera évidemment, comme tous les mercredis, à la rubrique Histoire. Bonne écoute de ce programme. Les cendres du peintre tchèque František Kupka devraient retourner dans sa patrie. Selon la télévision publique tchèque, le projet de transfert de l'urne contenant les cendres du célèbre peintre a obtenu l'appui officiel du ministère tchèque de la Culture, qui ouvrira le plus tôt possible des négociations à ce sujet avec les institutions compétentes en France. Plus de détails avec Václav Richter.
L'étoile de František Kupka ne cesse de monter. Le peintre, qui a vécu entre 1871 et 1957, s'impose un demi-siècle après sa mort comme l'un des fondateurs de l'art abstrait. Pendant longtemps, le lieu exact du dernier repos de l'artiste ayant passé la plus grande partie de sa vie en France était inconnu. C'est grâce à une étudiante tchèque, Lenka Jaklova, que nous savons aujourd'hui où se trouve son urne. Elle l'a découverte dans la partie moins connue du columbarium du cimetière du Père-Lachaise, où le peintre avait été inhumé. Le projet de transfert des cendres, lancé il y a quelques années déjà par l'association civique Abacus, a été appuyé par la suite par Opočno, ville natale du peintre, par les organes régionaux de Hradec Králové et aussi par plusieurs personnalités importantes. Parmi ces personnalités, le cardinal Dominique Duka, le ministre des Affaires étrangères Karl Schwarzenberg, l'ancien ministre de la Culture Jiří Bessel, le recteur de l'Académie des Arts de Prague Jiří Tomáš Kotalík ou la mécène et historienne de l'art Madame Látková, qui a salué cette initiative par ces mots.
Je pense que c'est une heureuse initiative parce que František Kupka se sentait et se considérait comme un Tchécoslovaque.
Les cendres du peintre devraient être inhumées au Slavine, une espèce de panthéon au cimetière national de Vyšehrad à Prague, où reposent les plus grands fils et aussi les plus grandes filles du peuple tchèque. Selon le recteur de l'Académie des Arts, Jiří Tomáš Kotalík, le peintre y retrouvera ceux qui ont joué un rôle important dans sa vie.
Il reposera à côté de ses professeurs comme Vojtěch Inaïs ou de ses confrères comme Alphonse Mucha.
La journaliste Lenka Jaklova estime que ce retour sera en fait la réalisation d'un vœu du peintre qui désirait surtout être présent dans son pays par ses œuvres.
C'est l'œuvre qui est essentielle pour l'artiste. František Kupka voulait faire don de ses œuvres à la Tchécoslovaquie. Dans son fort intérieur, il voulait donc revenir dans sa patrie.
Du côté tchèque, on est donc quasi unanime à estimer que František Kupka devrait reposer dans son pays. Il est cependant difficile de prévoir quelle sera la réaction de la partie française. La France aurait sans doute le droit de garder les cendres de l'artiste qui a vécu de 1895 jusqu'à sa mort, a combattu dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, a obtenu le grade de capitaine et a reçu la Légion d'honneur. L'ancienne directrice de l'Institut français de Prague, Olga Poivre d'Arvor, constate.
František Kupka est une personnalité que tout le monde voudrait s'approprier. L'impression générale qui prédomine en France est donc que František Kupka est absolument et uniquement français.
Quoi qu'il en soit, l'artiste et son œuvre font aujourd'hui partie du patrimoine mondial. Sa place dans l'histoire de l'art semble de plus en plus importante, comme si nous avions besoin d'un demi-siècle de recul pour l'apprécier à sa juste valeur. Cela se reflète aussi dans les prix de ses œuvres. L'année dernière, à Londres, sa toile Mouvement a été vendue 1 030 000 livres et les spécialistes estiment que les prix de ses tableaux continueront à augmenter.
« qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la tour de télévision de Prague, dans le quartier de Žižkov, fête cette année ses deux décennies d'existence. Inaugurée en 1992 dans le quartier de Žižkov, elle domine la capitale du haut de ses 216 mètres. Retour sur ce bâtiment futuriste et controversé, et qui cependant fait désormais partie du paysage de la ville au sans clocher. Jean-Sébastien Létan.
Quand on la voit de près, on pourrait croire qu'il s'agit d'une fusée prête à décoller vers l'hyperespace. Autant dire que le bâtiment tranche avec l'allure pluriséculaire et romantique de la capitale tchèque. Admiré ou détesté, mais toujours controversé, le bâtiment attire cependant chaque année beaucoup de touristes. Si la tour est souvent mal perçue, c'est peut-être aussi parce qu'elle reste une des dernières grandes réalisations architecturales du régime communiste. Le projet de construction est né à la fin des années 70, alors que l'émetteur radio de la colline de Petchin n'était plus suffisant. Quatre emplacements différents sont proposés afin de construire une nouvelle tour, parmi lesquels les jardins Malheur seront sélectionnés. Il s'agit à l'époque d'un petit parc créé dans les années 60 à partir des restes du cimetière juif de Žižkov, lequel avait été fondé en 1680 afin d'y enterrer les victimes israélites de la peste. En 1985, date de début du chantier, il ne reste de ce cimetière qu'une toute petite partie, classée monument historique et encore visitable aujourd'hui. À l'instar de la tour Eiffel à Paris, celle de Žižkov n'a pas été conçue comme un simple émetteur mais comme un belvédère. On y trouve à son premier étage un café-restaurant qui culmine à 66 mètres. Plus haut, à 93 mètres du sol, se trouvent trois plateformes d'observation en forme de caissons qui sont l'intérêt touristique majeur du lieu. Les étages supérieurs sont réservés aux installations techniques de České Radio Komunikace qui permettent les émissions d'ondes pour la télévision, la radio et les téléphones mobiles. Radio Prague a rencontré Roman Lein, représentant de la société Aureatea, qui détient le contrat d'exploitation de la tour depuis son ouverture et pour 25 ans. Il décrit la vue que nous pouvons avoir du haut de la tour.
Nous pouvons voir tout Prague à partir de la plateforme d'observation. Il y a trois belvédères à cet étage et ils permettent d'avoir une vue de 360 degrés sur la ville. Par beau temps, il est même possible de voir les monts des géants et le grand clocher de Vršovice. Malheureusement, aujourd'hui, le temps n'est pas assez bon, même si vous pouvez y arriver un peu. De ce belvédère, nous pouvons voir la vieille ville, le château et la majorité du centre de Prague.
C'est l'architecte Václav Haulický qui est choisi en 1984 pour réaliser la nouvelle tour de transmission. Plutôt que de réaliser un simple émetteur fonctionnel, il décide de se lancer dans un projet original. Inspiré par l'architecture high-tech, l'homme décide de construire trois piliers plutôt qu'un seul, deux de 134 mètres et l'un de 216 mètres qui court jusqu'au sommet. Les piliers sont faits de deux couches d'acier recouvertes d'une paroi de béton, une technologie totalement nouvelle à l'époque. La construction durera 7 ans, puisque la nouvelle tour de transmission sera inaugurée le 17 février 92, soit il y a tout juste 20 ans. Et pour ces 20 ans, la tour qui appartient par ailleurs à la société australienne Macquarie Infrastructure and Real Assets Europe se refait une beauté. La société Aureatea a commencé des travaux de réaménagement qui devraient être terminés le 1er juin. Plus de détails avec Roman Lein.
Nous changeons légèrement l'intérieur de la tour parce que, par le passé, il y avait un trop grand nombre de pièces qui n'étaient pas nécessaires. Beaucoup de galeries et les visiteurs étaient désorientés et on ne savait pas où ils se trouvaient. La reconstruction aura lieu alors que la tour sera toujours ouverte afin de ne pas faire d'interruption. Nous allons faire exactement la même chose qu'avec le restaurant. Détruire un tas de murs afin de rendre l'endroit plus spacieux et de créer une véritable vue panoramique. Les visiteurs venant en haut auront plus qu'une simple vue. Nous allons également ajouter des écrans tactiles interactifs et des informations extraites d'Internet afin qu'ils en apprennent plus sur les lieux clés, les personnages historiques et les dates importantes de l'histoire de Prague et de la République tchèque.
Ce bâtiment, connu pour avoir été classé numéro 2 du top des bâtiments les plus laids au monde par la chaîne CNN, attire beaucoup de touristes. Avec 200 visiteurs par jour, la tour a désormais acquis de la notoriété, et cela aussi grâce au Miminka du sculpteur David Cherny, bébé géant et doté d'une puce électronique en guise de visage qui semble grimper tout au long de la fusée. Il est finalement, après 20 ans et malgré toutes les controverses, difficile d'imaginer un coucher de soleil sur l'horizon pragois sans la présence de la tour de transmission de Žižkov.
La diplomatie culturelle tchèque depuis 1990, la création des centres tchèques à l'étranger et les relations franco-tchèques dans le domaine de la culture. Tels sont les sujets abordés par la spécialiste des relations culturelles franco-tchèques, Eliška Tomalová, maître de conférence à l'Institut des relations internationales de la Faculté des sciences sociales de l'Université Charles. Au micro de Paul Bauer, elle revient sur 20 années de coopération culturelle de la République tchèque avec ses partenaires diplomatiques et notamment les relations bilatérales franco-tchèques.
Chapitre de l'histoire.
Eliška Tomalová, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut des relations internationales de la Faculté des sciences sociales à l'Université Charles. Ma première question est de savoir comment était organisée avant 1990 la diplomatie culturelle entre ces deux pays.
La diplomatie culturelle tchécoslovaque fonctionnait à l'aide d'un réseau des centres culturels et d'information qui étaient situés dans la plupart des pays du bloc communiste. Alors, cette orientation géographique est une grande différence par rapport à la situation actuelle. Bien sûr, on peut douter de l'objectivité de l'information que ces centres propageaient. Mais après 89, ces centres ont été fermés et à leur place, ils étaient créés des centres tchèques, Česká centra. Et petit à petit, le réseau de ce centre évoluait et maintenant, les centres tchèques sont situés dans plus d'une vingtaine de pays à l'étranger.
Et quels sont parmi ces centres ceux qui ont été créés les premiers, dans les premières années ?
Dans les premières années, étaient créés les centres dans des capitales européennes. Dans des capitales européennes et des centres qui avaient déjà une longue tradition aussi avant 89. Alors, il y a le cas spécifique de Moscou, de Český Dům à Moscou, mais vous avez aussi le centre à Paris qui fonctionne depuis longtemps. Et la politique des centres tchèques et la politique du ministère des Affaires étrangères en cette matière est de créer des centres tchèques dans les grandes métropoles du monde entier. Et c'est l'idée dès le début de l'existence moderne des centres tchèques, être présent dans les centres culturels mondiaux.
Est-ce qu'on s'appuie pour la création de ces centres sur une tradition, on pourrait dire historique, plus ancienne que la période communiste, je pense à l'entre-deux-guerres et à la période de la Première République tchécoslovaque, qui était sans doute pourvue d'une diplomatie culturelle avec les autres pays de l'Europe? Est-ce qu'il existait déjà des centres culturels à cette époque-là? Et est-ce que ces centres ont constitué une sorte de modèle ou de référence pour reconstruire la diplomatie culturelle après 1990?
On ne peut pas vraiment parler d'une inspiration vers le modèle qui existait dans l'entre-deux-guerres parce que ce sont les ambassades qui s'occupaient surtout des relations culturelles entre les pays au niveau bilatéral, bien sûr. Il y avait des exceptions, mais c'était grâce aux initiatives privées. On peut plutôt parler d'une continuité administrative avec le système qui était en place, même sous le régime communiste. Mais il y a bien sûr une volonté de rupture idéologique et thématique en 89, parce qu'on pouvait reprendre quelques exemples positifs au niveau d'organisation, mais au niveau du sujet, de thème, quelle culture faut-il propager, c'est une autre question.
Donc après 1990, c'est le boom des nouveaux centres. Quelle est à ce moment-là la stratégie et le modèle de relations culturelles que la République tchèque pense avoir avec ses partenaires diplomatiques?
Tout au début des années 90, c'est pas encore le boom parce que c'était pas une priorité. Et les relations culturelles et la culture, c'est un luxe. Et dans la transformation de l'économie tchèque et du système politique tchèque, c'était vraiment pas quelque chose qui arrivait en première place. Mais grâce à l'enthousiasme de ceux qui travaillaient dans le domaine culturel, dans le domaine de la diplomatie culturelle, petit à petit, de nouveaux centres étaient créés. Il est difficile de parler d'une stratégie. Une première conception, une première stratégie de diplomatie culturelle à la présentation de la République tchèque à l'étranger, c'était en 2005, donc c'est assez tard. Je trouve qu'il faut plutôt vraiment parler d'enthousiasme, d'une volonté d'être présent dans les grands centres culturels que d'une vraie stratégie. Et la coopération sur place, les relations culturelles sur place étaient plutôt le résultat d'une stratégie personnelle du chef de l'établissement.
En 2005, donc plus de 15 ans après la chute du mur de Berlin et le début de la transition post-socialiste, c'est le moment où on va définir une diplomatie culturelle pour l'ensemble des centres. Et comment vous la définissez ?
La diplomatie culturelle, dans la vision tchèque, fait partie d'une présentation externe de la République tchèque, ce qui est une chose complexe. Cela inclut aussi la composante économique et touristique. C'est peut-être une différence par rapport au modèle français, parce que dans la politique étrangère française, on accentue vraiment la composante culturelle. L'exportation de la culture, le rayonnement culturel, ce sont des sujets qui reviennent et dont la France veut être fière et fière dans sa stratégie extérieure. Tandis que dans le cas tchèque, on ne cache pas les intérêts économiques qui sont derrière, les intérêts touristiques. On dit toujours que la présentation est une chose complexe et qu'il y a plusieurs composantes, notamment aussi la diplomatie culturelle. Donc c'est une différence. Mais ce n'est pas une spécificité seulement tchèque, c'est le cas de petits pays qui ont une stratégie plus économique de la présentation extérieure.
Et depuis 1990, quelle est l'évolution des relations culturelles franco-tchèques ?
Les relations culturelles franco-tchèques avaient une première phase de redécouverte après 1989. C'était une phase dans laquelle les deux partenaires étaient assez actifs et je dirais que les Français davantage. Depuis, les relations culturelles franco-tchèques font partie des relations culturelles avec les autres pays européens. Il y a les relations, c'est aussi une question de génération. Je trouve qu'actuellement, les jeunes ne situeraient pas les relations culturelles dans cette perspective bilatérale. Je trouve que la composante européenne est plus importante pour eux. Il y a d'autres relations avec des pays européens, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Pologne. Donc la perspective des étudiants, par exemple, est bien différente des autres générations plus âgées. Donc on peut parler des relations qui sont correctes, avec des points culminants depuis 1989.
Qui sera à quel moment ? Ce point culminant, vous l'avez...
C'était plutôt grâce aux initiatives concrètes qui ont suscité l'intérêt plus profond l'un pour l'autre. Il y avait la saison tchèque qui avait été organisée en France. Il y a aussi les présidences du Conseil européen en 2009. Donc ce sont des moments où il y a des relations plus intenses ou bien des initiatives formelles qui suscitent après un intérêt plus profond. Voilà, ce sont des relations correctes.
Donc des relations correctes, comme vous dites, ça veut dire qu'il n'y a pas un réel enthousiasme dans ces relations culturelles actuellement. Pour en revenir à l'histoire, quel est le rôle de l'histoire dans les relations culturelles franco-tchèques aujourd'hui ? Quels sont les personnages, les événements, les éléments de l'histoire qui sont rappelés et qui constituent les liens entre les deux pays ?
L'histoire est très importante dans la relation culturelle extérieure. Ça fait partie de la tradition. Donc, si vous regardez le programme des centres culturels et l'organisation de la diplomatie culturelle tchèque, chaque année, il y a des dates, des personnages clés qui sont soulignés dans notre stratégie culturelle extérieure. Donc, ce sont les grands anniversaires, les anniversaires de 1918, de 1968, de la charte 77. Donc, c'est une partie importante de notre image à l'étranger. En même temps, l'histoire, ça peut être aussi un problème dans les relations culturelles extérieures, parce que c'est peut-être le dilemme le plus important dans la présentation extérieure. Est-ce qu'il faut chercher dans l'histoire et propager, exporter ce qui marche bien, c'est-à-dire du côté tchèque, Antonín Dvořák, Jan Háček, les noms comme Václav Havel,
ça fait déjà partie de l'histoire aussi, Kupka, etc. Ou bien est-ce qu'il faut plutôt accentuer la modernité et travailler plus en coopération avec les artistes modernes, contemporains? Donc c'est un dilemme qui est aussi au cœur de la stratégie culturelle extérieure tchèque.
C'était donc Eliška Tomalová au micro de Paul Bauer pour cette rubrique historique du milieu de la semaine. C'est avec elle également que s'achèvent ces émissions en français de Radio Prague. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sous différentes formes sur notre site internet au www.radio.cz/fr et ce sous forme de podcast, sous forme d'articles, mais également en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.